On passe toute notre vie à tenter de convaincre les autres. C'est le cas pour vous qui écoutez, pour vos collègues, vos amis, j'échappe pas non plus. La majorité du temps, quand je tente de convaincre, d'influencer ou de rallier les gens à mes idées, je le fais sans même y avoir réfléchi. Que ce soit comme professeur devant une classe remplie d'étudiants, comme consultant quand je rencontre un client, ou même avec mes meilleurs amis d'enfance, quand je leur propose de louer un chalet le temps d'une fin de semaine, je tente inconsciemment de convaincre des gens. C'est aussi ce que je fais présentement, tenter de vous convaincre. Pour le faire, j'énumère une série d'exemples concrets pour vous expliquer la validité de mon point. Est-ce donc dire qu'expliquer une idée est une façon de convaincre les autres? Est-ce donc dire qu'il existe plusieurs approches pour convaincre les gens? Et s'il existe plusieurs méthodes de convaincre, comment on fait pour savoir laquelle est la meilleure? S'il est difficile de trancher cette question avec une réponse sans équivoque, une chose est certaine, c'est une question que les humains se posent depuis très très longtemps. Puis comme pour tant d'autres questions, c'est pas parce que la réponse est complexe que ça vaut pas la peine d'y réfléchir. Je vous présente mon ami Jean-François Berthelet. Il est enseignant à HEC Montréal. Il agit comme expert pour tout ce qui touche les ressources humaines, que ce soit comme consultant ou conférencier. C'est un fan fini de hockey, j'aime mieux vous prévenir, et un passionné de tout ce qui concerne l'inévitable relation entre les humains et le marché du travail.
Je vous présente mon ami Alexandre Rousseau. Comme moi, il a la particularité de porter plus qu'un chapeau. C'est un avocat, c'est un consultant d'affaires. Il enseigne aussi à HEC Montréal en gestion et en stratégie. C'est un passionné, c'est un poète aussi des fois, avide lecteur d'à peu près tout ce qui lui tombe sous la main.
Dans le fond, c'est exactement ça qui fait qu'on est réunis aujourd'hui, notre curiosité.
Au fond, oui, on collabore ensemble, on est deux amis, puis on a l'habitude de se partager nos plus récentes lectures et découvertes scientifiques en lien avec la nature humaine, les relations humaines et le travail, puis on s'est dit, au lieu de garder ça pour nous, ce serait le fun de partager ça avec le plus de gens possible. Et aujourd'hui, on a le plaisir de faire ça avec vous tous, mes chers membres du Réseau de développement économique et d'employabilité, communément appelé RED. Alors à vous, qui nous écoutez présentement dans l'une ou l'autre des provinces de notre grand pays qu'est le Canada, on vous salue puis on vous souhaite de passer un agréable moment de réflexion et de découverte avec nous aujourd'hui.
Aujourd'hui, le thème de notre épisode, c'est l'art et la science de la persuasion, comment mieux convaincre, influencer et rallier les autres à nos idées. Jean-François, moi, à titre d'avocat, je crois bien que c'est même pas nécessaire de souligner que j'adore discuter et réfléchir de tout ce qui touche l'art de la persuasion. Pour moi, loin d'être un trait de personnalité négatif, chercher à convaincre et influencer les gens, c'est pour moi une manière très efficace d'améliorer les choses et même de changer le monde. Mais plus concrètement, là, pourquoi on a décidé d'aborder ce thème-là avec les membres du RED aujourd'hui?
Mais les membres du RED sont exposés à ce défi-là. Ils n'ont pas d'autorité par rapport aux autres personnes. Ils doivent influencer. Par exemple, lorsqu'on veut engager, mobiliser des employeurs partout à travers le Canada pour réaliser notre mission, faire de l'embauche, par exemple, de francophones dans les milieux qui sont plus anglophones, ça devient extrêmement difficile parce qu'on n'a pas de pouvoir. Parce que c'est facile d'influencer quand t'es le boss, par exemple. Et donc là, la question, aujourd'hui, on va parler de persuasion. Mais comment on fait pour influencer les gens à suivre nos recommandations? C'est pas si simple que ça, hein, parce que parfois on essaie de convaincre, puis on se rend compte qu'en essayant de convaincre, on s'enlise. Donc c'est un thème qui est pas si simple que ça à première vue, puis il y a des études assez fascinantes, puis c'est celle-là qu'on veut partager avec les membres du RED.
D'ailleurs, j'ai lu que, selon les travaux de certains économistes, on y apprend que l'action de persuader d'autres individus, c'est à la base du quart, et peut-être même plus, des revenus aux États-Unis. Considérant la grande similitude entre le contexte économique du Canada et celui des États-Unis, je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que la persuasion a un impact aussi important dans l'économie canadienne. Puis ça, ben, ça s'explique entre autres par le fait que l'économie des nations industrialisées, comme les États-Unis ou le Canada, ben, c'est désormais orientée vers une économie dite du savoir, où les connaissances occupent une place prépondérante dans le quotidien des professionnels comme toi, moi, puis les gens qui nous écoutent. Forcément, ben, ce sont ces professionnels qui doivent ensuite faire circuler des connaissances puis des idées pour rallier les autres, les convaincre de se comporter d'une manière souhaitée ou désirée. Un peu plus tôt, il a été question que l'idée de parvenir à convaincre de la manière la plus efficace possible. Ça occupait les esprits des humains depuis extrêmement longtemps, voire même des millénaires. Bien, c'est pas une exagération là, qui vise seulement à vous convaincre. Là. En fait, sans me prononcer sur la naissance même de l'art de la persuasion, il est pertinent de souligner qu'il y a plus de 2000 ans, plus précisément là, en 300 avant Jésus-Christ environ, Aristote, le philosophe grec de l'époque antique, jetait les bases de sa pensée sur l'art de la persuasion dans un ouvrage intitulé « La rhétorique ». Puis Jean-François, pour te connaître, je sais que tu adores partager ces concepts de l'Antiquité, mais qui sont toujours pertinents.
Effectivement, puis je l'ai souvent enseigné Aristote à cet égard-là. Oui, ça date de 2000 ans, puis parfois on a un biais pour la nouveauté. On se dit « Ah ben là, c'est vieux, hein? » Nos étudiants vont dire « C'est vieux, cette affaire-là. » Mais en réalité, là, c'est très pratique puis très applicable à la réalité d'aujourd'hui. Tu le connais, cette approche-là, Alex, ou non?
J'en ai entendu parler, mais j'aimerais ça t'entendre.
OK, donc prenons des notes. OK, il y a trois catégories. Au fond, c'est trois angles, trois approches ou trois portes d'entrée pour convaincre les gens. OK? Et donc là, on va ressortir notre langage du passé. On va appeler ça éthos, pathos et logos.
OK? C'est bon.
Donc, c'est trois façons pour convaincre. Donc, éthos, ça réfère à quoi? Éthos réfère à la crédibilité. OK? Et donc, c'est la crédibilité de la personne. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'enseignant à HEC Montréal, qui enseigne depuis plus de 10 ans, bien là, j'espère que quand je viens de dire ça, vous pensez « Ah, il doit être pas si pire pour me présenter cette affaire-là. » Mais on peut comprendre que c'est très contextuel. Peut-être que quand je viens de vous dire « J'enseigne à HEC Montréal », il y a peut-être des gens qui ont dit « C'est un pousseux de crayon, c'est un universitaire, puis il n'est pas connecté à la réalité du terrain. » Donc, tu l'as peut-être déjà entendu. Donc, l'éthos, il dépend aussi de la crédibilité qu'on veut bien nous accorder. D'ailleurs, le mot « crédibilité », c'est souvent qui mérite d'être cru, bien, on dit que c'est dans les yeux de ceux qui nous l'accordent. Donc, la crédibilité va dépendre, par exemple, de notre titre professionnel, de notre historique aussi. C'est pour ça que les gens vont vous dire « Et depuis donc 15 ans que je roule ma bosse dans tel domaine » ou « Nous vous offrons ce service depuis 1931 », c'est-à-dire ah, « ben, ils doivent bien savoir ce qu'ils font. »
J'imagine que c'est pour ça qu'il y en a qui aiment autant afficher leur diplôme dans leur bureau.
Exactement. Donc ça, c'est la première partie. Donc, vous pouvez réfléchir. Moi, par exemple, quand je veux convaincre des gens, il y a des profils de personnes qui vont être convaincus en disant « Ah ben lui, c'est un docteur, il doit savoir de quoi il parle. » Deuxième partie, c'est le pathos. Le pathos, c'est plutôt émotif. Tu sais, on sait la nature humaine, il y avait des cartes qui disaient « Je pense, donc je suis ». Oui, mais il y a quand même une grande partie de la nature humaine qui pense, au fond, très émotivement. Et donc, le pathos, hein, les politiciens vont l'utiliser souvent, c'est de vous convaincre. Par exemple, quand je prends un bébé dans mes bras puis je suis un politicien, ah, et là, on vient vous convaincre par le côté profondément émotif en nous. Y a-tu l'air d'une bonne personne? Ou ça pourrait être aussi hein, des émotions négatives. Je peux vous faire peur aussi. Un politicien va l'utiliser en disant, vous voyez, si vous ne m'élisez pas, hein, ça va être une situation économique difficile. Puis là, on regarde nos enfants puis on dit, on n'a pas le choix. On veut protéger le futur. Et donc, le pathos, c'est faire appel aux émotions des gens. Puis ça peut être aussi tout simplement de connecter avec quelqu'un sur le plan émotif pour avoir une relation avec lui. Et la personne va dire, ça me fait plaisir de t'aider ou tu m'as convaincu parce que tu me rejoins émotivement. Le dernier, c'est le logos. Le logos, qu'est-ce que c'est? C'est convaincre avec des faits, avec des statistiques, avec des informations de qualité. On pourrait même dire qu'à notre époque, c'est un peu difficile. On est à l'époque des fake news. Mais le logos, historiquement, c'est une approche intéressante. C'est de dire, c'est pas moi qui le dis, c'est pas ma crédibilité personnelle, c'est pas que je veux te rejoindre émotivement, mais voici les faits, voici les statistiques, par exemple. Et donc, si je fais une présentation et je dis, selon une étude publiée par le Centre de recherche canadien XYZ, 82% des gens, mais là, je suis pas en train de faire appel à mon expérience, mon expertise ou à vos émotions, on dit, voici les faits. Et donc, on peut s'imaginer qu'on peut convaincre des gens différemment selon les différents profils. Par exemple, un ingénieur, est-ce que ça serait un peu plus du logos? Ben, je te pose la question, qu'est-ce que tu en penses?
Bien évidemment, j'ai l'impression que c'est pas un tiers, un tiers, un tiers, parce que moi-même, si je sens qu'on mise beaucoup sur les émotions pour me convaincre, on dirait que ça a l'effet contraire. Par contre, les arguments qui sont plus axés sur la raison, j'ai tendance à y accorder une importance plus grande.
Ça me rassure de la part d'un avocat, tu sais. Mais j'imagine, quand on y pense, hein, que quelqu'un qui veut convaincre un jury, si le jury, je le connais, hein, on va aller chercher le pathos. Puis on va dire, mesdames, messieurs du jury, pensez-vous vraiment que... Puis là, ce qu'on fait appel, hein, c'est pas les faits, c'est les émotions, tu sais, parce qu'on va espérer que le jury soit emporté du point de vue émotif. Et c'est pour ça que le plaidoyer n'est pas uniquement un calcul ou une série de faits présentés les uns après les autres.
Mais puisque c'est difficile de connaître le profil de notre interlocuteur, Comment on fait pour savoir la meilleure approche pour le convaincre?
Bien, je dirais qu'il y a de l'essai-erreur. Si vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois, on peut y aller aussi avec des proxys, c'est-à-dire, bon, mais c'est quelqu'un qui est avocat, bien, il y a plus de chances peut-être qu'on peut le convaincre avec des faits rationnels. Il y a des gens qui vont aimer les motivateurs, par exemple. Puis moi et toi, on va se dire, ça vient de où ce qu'il dit là? Quand il dit qu'il y a 5 trucs pour être heureux, c'est quoi la source, tu sais? Ben, on va essayer de regarder avec le type de personne. Puis les émotions, ça va plus loin qu'on pense. Quand on parle du pathos, hein, ça joue de façon assez surprenante. Je vais te partager une étude, si tu me le permets, qui dit, ben, le juge, par exemple, un juge qui doit rendre une décision sur est-ce que je laisse la personne sortir de prison ou je la laisse en prison, peut être influencé par quelque chose d'assez important. Y a-tu faim?
Tu veux me dire que le niveau de faim du juge va avoir un impact sur le verdict?
Oui, parce que dans le fond, décider de libérer quelqu'un, par exemple, en libération conditionnelle, ça demande de l'énergie mentale, OK? Mais là, j'en ai plus d'énergie mentale, j'ai faim. C'est pas le bon timing, si je peux me permettre l'anglicisme, pour convaincre un juge. Ils disent, oh, j'ai faim, on le laisse là. Même chose pour plein de domaines, hein, c'est-à-dire à quel moment vous prenez votre rendez-vous. Bien, il y a beaucoup de questions dans l'art de convaincre qui sont reliées à quelle heure de la journée tu appelles la personne. Pensez-y.
Tout ce temps-là, ce que tu me dis, en fait, depuis, c'est que quand j'étais avocat devant les tribunaux, ce que j'avais besoin de préparer, c'est pas tant un argumentaire, mais un bon sandwich.
Ben, t'as pas complètement tort. Et là, les gens qui nous écoutent peuvent dire, il faut pas charrier. Mais oui, c'est-à-dire que peut-être que ton argumentaire aurait mieux été, puis c'est un excellent point que tu dis, la qualité de l'argumentaire de l'avocat qui prépare son argumentaire, il est réglé au quart de tour, mais peut-être j'aurais été mieux d'être un peu moins préparé puis de dire, j'aime mieux être cédulé à 9h qu'à 11h et de, par exemple, gérer la question du moment de la journée. Et donc, parce que, oui, le juge, aussi intelligent soit-il et rigoureux qui suit la jurisprudence, il y a un impact du fait du moment de la journée. Et ça, c'est des études scientifiques qui le prouvent. Je fais appel à ton côté, logos.
Donc, si c'est vrai pour les juges, j'imagine que c'est vrai pour à peu près tout le monde que je rencontre, l'importance justement de réfléchir au bon moment, de leur adresser mes arguments.
Ben, par exemple, vous voulez convaincre quelqu'un de signer un contrat avec vous. Est-ce que ça a une charge mentale importante pour lui de signer un contrat avec vous? Sûrement. Peut-être que vendredi après-midi, la personne n'a plus d'espace mental pour prendre cette décision-là. Ceci dit, ça s'utilise de l'autre côté aussi. On pourrait dire, par exemple, quelle est la décision la plus facile pour cette personne à ce moment-là? C'est comme si vous sortez d'une grosse soirée, vous êtes fatigué, et là, il y a un taxi qui vous dit « Je vous charge 50$ pour vous ramener chez vous. » Il est directement devant la maison. « Ah oui, ça va être fait, ça va être réglé. » Donc, utilisez le pouvoir du moment pour influencer les autres. C'est un outil sous-estimé. Il y a Dan Pink qui a d'ailleurs écrit à ce sujet-là. Donc, M. Dan Pink qui parle de « power du moment ». Et ça, on va le mettre dans les lectures complémentaires.
Ce que je retiens de tout ça aussi, c'est qu'on a tendance à croire que convaincre quelqu'un, c'est faire des actions proactives, c'est dire des choses, alors qu'on dirait que l'écoute puis l'observation, ça a un rôle tout aussi important.
Oui, parce que l'écoute, au fond, on dirait quelle personne j'ai devant moi, quels sont ces éléments qui m'empêchent de le convaincre. Il peut y avoir quelqu'un qui dit « il ne me rejoint pas cette personne-là, je le sens pas », on est dans le pathos. D'autres personnes qui vont dire « quelles sont ses sources, d'où vient son information ?» D'autres personnes qui vont me dire « c'est qui lui pour me présenter cette information-là » Et donc là, s'adapter en direct. Puis c'est là qui devient l'art de convaincre optimal. C'est quand vous êtes capable en direct de dire « et là, imaginez que vous avez une console de son et vous dites « là, je vais augmenter un peu l'éthos, là, parce que je pense qu'avec le groupe que je suis présentement, c'est ce que je dois faire. Maintenant que mon éthos, ma crédibilité est établie, mais là, c'est plus facile d'aller dans le logos. Ils vont me dire, oh, il a fait une bonne recherche de littérature, par exemple, où ses arguments sont fondés parce que j'ai confiance en la crédibilité de la personne. Donc, voyez-vous aller. On pourrait appeler ça de la conscience de soi, de sa capacité à persuader.
Donc, connaître les forces et les faiblesses de son argumentaire selon les trois piliers présentés par Aristote, ce serait la clé pour être encore plus persuasif?
Oui, puis au fond, regardez, là, Aristote, ça date de longtemps, mais dans Harvard Business Review, la grande revue universitaire, encore aujourd'hui, on dit les trucs d'Aristote, au fond, il y avait une forme de sagesse, on dit que c'est des sages. L'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il est très facile à utiliser. Hein. Vous pouvez être en train d'avoir une conversation et l'avoir dans votre tête et vous ajuster en direct. Donc, ça date de 2000 ans, mais comme quoi, on peut toujours utiliser les vieux principes pour convaincre.
Jean-François, c'est très, très intéressant tout ce que tu viens de nous présenter puis de penser qu'un philosophe vieux de 2000 ans a dit des choses aussi intéressantes sur un sujet qui nous concerne encore aujourd'hui. Mais concrètement, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, là, les membres du RD, est-ce que c'est vraiment utile? Puis si oui, comment ça peut leur être utile au quotidien?
Bon, je me présente devant un employeur, hein, puis je dois essayer de le convaincre, par exemple, d'embaucher une main-d'œuvre francophone. T'sais. Mais pendant que je suis en voiture pour me rendre dans son entreprise, je me dis, quel est le profil de cette personne-là? T'sais, il y a ça de ce côté-là, donc je m'adapte à la personne. Puis moi aussi, de mon côté, là, j'ai ma préparation mentale. Donc en termes, par exemple, d'éthos, ben, ma crédibilité, est-ce qu'elle est établie comme personne? Ils vont dire, c'est qui, lui, pour me présenter ça? Mais c'est quoi, votre historique, vos succès que vous avez eus? C'est quoi votre titre, à la limite? Quelle organisation vous représentez? Vous faites partie d'un grand réseau canadien, par exemple. Deuxième partie, ben là, le pathos. Je connais cette personne-là ou je la connais peu. Comment je fais pour connecter avec cette personne-là sur le plan émotif? Hein, vous vous posez la question. Et ensuite, le gosse. Quels sont les faits? Quelles sont les histoires de succès aussi, par exemple, de ce que vous avez fait? Quelle est l'importance de la diversité et de l'impact de la diversité? Par exemple, avez-vous des données là-dessus? Donc, vous avez trois angles pour convaincre les gens. Et des fois, on essaie la technique qui nous représente le plus. Hein. Par exemple, vous allez dire, moi, j'aime ça convaincre là, d'un point de vue très pathos. Mais ce n'est pas tous les gens qui sont programmés de la même façon de l'autre côté de l'équation. Donc, ça nous permet aussi de nous ajuster puis de nous préparer à tous les scénarios possibles. Bon, j'ai peut-être pas réussi à vous convaincre avec une approche qui date de 2000 ans, et c'est pour ça qu'Alexandre est là. Il est beaucoup plus moderne et à la fine pointe des idées. Et donc, y a-t-il des approches plus récentes là, qui nous parlent de persuasion? J'imagine que oui.
Effectivement, il y a une approche qui a été abondamment partagée par un dénommé Robert Cialdini, qui est un docteur en psychologie. Robert Cialdini, c'est un psychologue social américain. Il enseigne, entre autres, à l'Université d'Arizona, puis il a publié un ouvrage qui est devenu très, très célèbre et qui s'appelle, en anglais, « Influence, the Psychology of Persuasion ». Puis ça, ça a été publié aussi en version française, évidemment. C'est disponible sous le titre « Influence et manipulation ». On doit l'avouer, le titre francophone laisse transparaître un contenu un petit peu plus machiavélique que dans sa version originale, mais il ne faut pas laisser se duper par le titre. Ce livre du docteur Cialdini s'est vendu à plusieurs millions de copies, en étant traduit donc dans une quarantaine de langues, puis ça témoigne de l'universalité de l'intérêt qu'on porte aux techniques de persuasion à travers le monde.
Et il dit quoi ce fameux livre-là?
Ben, en fait, il s'agit ni plus ni moins du fruit des recherches de Robert Cialdini en ce qui concerne les mécanismes puis les techniques de persuasion. C'est présenté d'une manière très accrocheuse, on doit l'admettre, parce que Robert Cialdini, il présente 6 principes universels que toute personne devrait comprendre et maîtriser pour optimiser son niveau d'influence qu'il va exercer sur les autres. Ou si on y va à contrario, connaître ces principes universels, ça pourrait vous permettre d'éviter de vous retrouver dans une situation où c'est vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Pas besoin de vous dire que le domaine de la vente s'est délecté à travers le temps des propos de Robert Cialdini, considérant la nature même du métier de vendeur, c'est-à-dire convaincre quelqu'un qui doit acheter ton produit ou ton service. D'ailleurs, c'est assez amusant de savoir que le professeur Cialdini a mentionné que pour écrire ce livre-là, pendant 3 années, il s'est immiscé dans différentes organisations pour occuper des emplois, en fait, à titre de vendeur notamment ou de téléphoniste en télémarketing, parce que ce qu'il souhaitait faire, c'était observer des situations réelles, puis même les vivre.
Là, les gens qui nous écoutent ne sont pas nécessairement des vendeurs, mais en réalité, on pourrait dire nous sommes tous des vendeurs, on veut faire passer nos idées, on veut influencer. Donc ça s'applique à tout le monde. Là.
C'est exactement ça, puis c'est ça que tu vas constater par toi-même avec les 6 principes suivants que je vais te présenter.
Good, on écoute.
Alors, tout d'abord, le premier principe de Cialdini, on pourrait l'appeler, c'est exactement comme ça qu'on va l'appeler parce que c'est Cialdini qui l'a nommé, c'est la réciprocité. C'est quoi la réciprocité? Ça réfère à l'obligation qu'on s'impose à vouloir redonner à quelqu'un lorsqu'on a reçu en premier. Je pense que pour illustrer ça, là, pensez à une situation où vous avez un collègue qui se marie puis qui vous a invité à son mariage. Mais là, vous êtes surpris parce que vous n'aviez pas vraiment l'impression que le lien qui vous unissait à lui méritait une invitation à un événement aussi personnel. Mais pourtant, même si vous aviez cette impression-là, il y a de fortes chances, par la suite, que vous vous sentiez, le temps venu, si jamais vous vous mariez, contraint de lui retourner l'appareil en l'invitant à votre propre mariage. Puis ça, c'est encore plus vrai si le délai entre son invitation, le moment que vous l'avez reçu, puis votre propre mariage, est rapproché. Donc souvent, on se retrouve à faire les frais de la réciprocité sans même qu'on s'en doute. En bref, pour tirer pleinement profit du principe de réciprocité, il faut être le premier à offrir. Ça, c'est vrai. Mais plus important encore, il faut réfléchir à comment on va le faire. Puis à ce niveau-là, il n'y a rien qui équivaut à une belle contribution personnalisée puis inattendue.
Dans le fond, ce que tu m'expliques, c'est que je comprends maintenant pourquoi les courtiers d'assurance m'envoient des cartes de bonne fête.
Effectivement, s'il y a quelque chose qui explique cette carte que tu reçois.
Mais là, je sais plus, il essaie de m'influencer, puis c'est toujours ça, ce thème-là, hein, l'influence, la manipulation. Mais ce que je retiens, c'est quand c'est fait de façon sincère. T'sais.
Tout à fait. L'intention de la personne est primordiale. Puis c'est certain qu'avec le temps, le domaine de la vente, entre autres, a beaucoup raffiné les méthodes de réciprocité. Là. Avant, c'était un petit peu plus évident. Maintenant, les gens en ont tellement vu que ça nécessite un peu plus de créativité, puis de miser, comme tu l'as dit, sur le sentiment sincère de la personne. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième principe de Cialdini, c'est celui qu'il a appelé l'engagement et la cohérence. En fait, l'engagement, c'est faire en sorte que la personne que tu cherches à convaincre va s'approprier son changement de perception. Idéalement, cette appropriation-là de l'autre personne, ça passerait même par une déclaration publique, pas une annonce dans le journal, on s'entend, là, mais dans le sens, demandez à votre interlocuteur, une fois que vous estimez l'avoir convaincu, c'est quoi qu'il souhaite qu'il se passe pour la suite des démarches, par exemple.
C'est comme si à partir du moment où il dit « OK, c'est ça que je veux », ben dans son cerveau, il rentre que ça vient de lui. Ça me fait un peu penser au film « My Big Fat Greek Wedding » où l'idée, c'est de convaincre le papa de faire le mariage sur une île, puis ils disent « La seule façon de le convaincre, c'est que l'idée vienne de lui. »
Exactement. C'est là qu'on comprend que convaincre, c'est pas nécessairement avoir raison. Dans le même esprit que pour l'engagement, l'idée avec la cohérence, là, c'est de se souvenir qu'un individu, une fois qu'il s'est compromis dans une direction de pensée, ben, il va avoir tendance à s'accrocher à l'idée qui est nouvellement implantée dans son esprit, puis ça, malgré que des nouvelles informations ou des données pourraient ensuite venir altérer son choix. En fait, changer d'idée, c'est exigeant pour la majorité des gens. Donc, chercher à y parvenir, puis ensuite préciser certaines modalités additionnelles, ça va vous permettre de consolider votre persuasion.
Ça me rappelle une campagne publicitaire au Texas. On avait dit aux gens « Don't mess with Texas ». Et ça voulait dire « Ne lancez pas vos objets sur le bord de la route ». Et ça avait un effet pour convaincre les gens. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient « Nous, les Texans, on fait pas ça ». Puis ça faisait appel au côté un peu patriotique de dire « On protège notre environnement ». Et donc, ça avait un effet dû à l'identité des personnes ou à leur engagement en disant « voici ce que nous, on veut faire ».
Exactement. Puis s'ils agissaient autrement que selon cette directive-là, ben pour eux, ça créait une incohérence en fait avec leur identité.
Exactement.
Maintenant, Jean-François, pour le troisième principe de Cialdini, je ne vais pas te le nommer tout de suite. Je vais plus te faire une mise en scène. Tu es en voyage à New York. Tu marches sur la rue, tu recherches un endroit pour souper. Puis là, ben, tu tombes sur une rue où il y a deux restaurants qui se font face sur la même rue, même genre de restaurant. Le premier, il est presque vide. Puis, ça t'indique qu'il suffit d'entrer, puis tu vas avoir ta table. Juste en face, il y a des gens qui font la file pour un restaurant très similaire, je le répète, dans l'espoir d'obtenir une table sans avoir de réservation. Tu peux-tu m'expliquer pourquoi tu pourrais être tenté de te rallier au groupe de gens qui sont en file plutôt que d'opter pour la facilité puis le restaurant qui est à moitié vide? Puis ça, c'est même... Tu connaissais aucun des deux endroits quelques instants avant, là?
Ben, peut-être parce que ils ont l'air d'avoir du fun dans la file.
Ben, en fait, ce qui se passe, c'est exactement le troisième principe de Cialdini qui s'appelle la preuve sociale. C'est un exemple de preuve sociale. Puis les effets de ce principe sont parfois inattendus sur les gens. Comme je disais un peu plus tôt, puisque changer d'opinion, ça exige un effort mental, voire même parfois du courage, il est toujours plus facile de se laisser convaincre lorsqu'on a l'impression que d'autres individus, idéalement des gens similaires à nous-mêmes, ont déjà pris une décision dans le même sens.
On dit des fois « Ah, lui est influençable », mais dans le fond, on est tous influençables. Je peux te raconter une anecdote là-dessus. Je pense que ça implique un bar. Est-ce qu'on a le droit de prendre ces exemples-là?
Je pense que oui.
Bon, j'étais dans une soirée bar open, qu'on appelle. Et je me suis rendu compte que la dame au service recevait pas de pourboire. C'est comme si les gens se disaient que c'était gratuit. J'ai voulu être gentil avec elle. Et là, à chaque fois que quelqu'un arrivait, je faisais comme semblant d'y donner 10$. Ben, j'ai fini par lui donner, mais juste une fois quand même. Et là, tous les gens qui venaient prendre une consommation me voyaient lui donner le montant. Et là, se sentaient mal tout à coup. Souvent, ils donnaient un 5$. Donc, j'ai sûrement pas juste doublé, mais quadruplé les montants de revenus de sa soirée. Elle m'a absolument rien donné d'ailleurs. J'ai refusé comme un gentleman. Mais j'imagine que les gens se disaient « Ah oui, c'est vrai, il faut donner quelque chose. » Et donc, c'était beaucoup par preuve sociale, beaucoup plus que par volonté ou par conviction personnelle.
Donc, à ta façon, te guider les gens dans la façon qu'ils devaient se comporter.
Ben, ouais, je crois que oui, hein.
Puis c'était pour le bénéfice de la serveuse, puis j'imagine que ça t'a permis d'avoir un bon service cette soirée-là.
Oui, très clairement.
On est déjà rendu au quatrième principe sur 6, selon Cialdini. Puis ce quatrième principe-là, c'est celui qu'on appelle l'autorité. Parce que pour le meilleur et pour le pire, on vit dans un monde où la spécialisation, voire même l'hyperspécialisation, est de plus en plus la norme. Donc, au soutien de chaque décision ou presque qu'on souhaite prendre ou qu'on doit prendre, les gens aiment pouvoir se faire rassurer par des propos ou des données provenant d'experts en la matière.
Mais là, on n'a pas tous le statut d'expert?
Bien, effectivement, on n'a pas toujours ce statut-là, mais ça ne nous empêche pas de convaincre grâce, justement, à certaines expertises. Pour le faire, on doit donc se tourner vers d'autres sources, puis relayer des informations qui sont évidemment véridiques, vérifiées ou à tout le moins vérifiables. J'insiste sur la pertinence de la rigueur lorsqu'on souhaite convaincre quelqu'un par le biais d'un appel à l'autorité. Parce que s'il fallait que tes arguments d'expert soient démolis, ben c'est ta propre crédibilité et puis la confiance qui en découle qui serait gravement affectée. Par la suite, ben c'est aussi ton pouvoir de persuasion qui va être à reconstruire. Puis ça, reconstruire un capital de persuasion, si je peux dire, c'est pas sans défi, là.
Donc, quand quelqu'un nous dit « ils l'ont dit à TV », c'est pas suffisant.
Non, pas tout à fait. Je pense que ça exige de faire, pour reprendre les expressions de certaines personnes, faut faire nos recherches. Le cinquième principe de Cialdini, c'est celui qui s'appelle la rareté. Selon les théories économiques les plus connues, l'augmentation de la rareté d'un produit ou d'un service par rapport à sa demande va augmenter la valeur. Parfois, on dirait même que c'est lorsque l'on perd quelque chose qu'on en apprécie pleinement la valeur.
Ça, Apple a compris ça, là, au fond. Là. Tu veux un iPhone, pas parce que c'est bien, parce que tout le monde en veut un puis il n'y en a plus.
Effectivement, Apple puis pas mal d'autres penseurs du monde marketing ont vraiment bien compris comment l'exploiter, là. Pensez aux offres là, à durée limitée, les promotions à quantité limitée. Quand on nous dit « faites vite, bientôt il sera trop tard », ben c'est exactement ce principe-là qui est utilisé. En matière de persuasion, quand on cherche à rallier quelqu'un, il importe donc de réfléchir pour identifier c'est quoi l'aspect de notre proposition qui comporte un élément de rareté. Puis ben ensuite, c'est possible de le mettre de l'avant. Faut pas prendre pour acquis là, que la personne à qui on parle a très bien saisi là, de quel aspect de notre proposition qu'il y a des éléments qui sont rares ou éphémères. Mais surtout, quand tu as identifié les éléments qui sont rares, tu dois ensuite, oui, les présenter, mais le faire d'une manière qui va être sincère puis transparente. À défaut d'adopter une approche qui est vraiment authentique, puis on l'a mentionné précédemment, ben il faut être conscient qu'on joue avec le feu parce que tu t'exposes à un contre-coup de la part de ton interlocuteur parce qu'il va se retrouver forcément choqué ou au moins refroidi à l'idée de placer sa confiance dans toi.
Ça me fait un peu penser quand j'ai acheté une voiture la dernière fois. La personne me dit, je vous rappelle cet après-midi. Ouf, cet après-midi, je suis pas sûr que le véhicule va être encore là. Dans le fond, il a voulu créer un effet de rareté dans ma tête. Après, hein, quand on parlait de crédibilité et tout ça, tu veux établir une relation de confiance à long terme.
Effectivement. Puis quand il t'a appelé pour te dire que le véhicule allait probablement disparaître dans l'après-midi, ça a tout simplement fait que tu l'as pas cru puis tu n'avais plus du tout envie de faire affaire avec cette personne-là.
Mmh, j'allais faire affaire avec son collègue juste à côté. C'est une question de principe.
Pour te parler du sixième et dernier principe de Cialdini, je vais te donner une autre mise en scène. Imagine-toi que tu dois convaincre des gens d'investir dans ton nouveau projet d'affaires. Pour y arriver, ben, tu maîtrises chacun des cinq principes qu'on vient de discuter. Mais il te reste la possibilité de choisir à qui tu vas faire ta présentation pour convaincre un maximum de très riches investisseurs. Le premier groupe, il est formé de 10 personnes que tu n'as jamais rencontrées. Puis le deuxième groupe, c'est 10 autres personnes, mais c'est des gens avec qui tu as déjà discuté dans le passé puis avec qui tu as eu beaucoup de plaisir à partager des histoires, des anecdotes ou des moments. Quel groupe tu vas choisir?
Ben, celui avec qui j'ai des contacts. Ça me fait penser à un célèbre réalisateur qui disait 90% du succès, c'est d'être là. T'sais. Puis c'est des gens que tu connais, que tu as rencontrés. Ça nuit pas quand même. Là.
Effectivement, ça nuit pas. Puis je dirais même que le choix est évident pour la majorité des gens. Mais si le choix est aussi évident, là, ben c'est essentiellement parce que le sixième principe de Cialdini, qui s'appelle l'appréciation, ou parfois on l'appelle l'amitié, en fait, c'est celui qui souligne qu'il vaut mieux être apprécié pour pouvoir convaincre, puis que c'est en fait un principe qui est quasiment impossible à remettre en question. Donc, peu importe le contexte, lorsqu'on cherche à persuader, on cherchera forcément à plaire, à charmer, ou au minimum, à paraître sympathique à notre interlocuteur. Face à ce principe-là de Cialdini, il peut être tentant de s'adapter entièrement là, à l'autre personne puis espérer qu'il voit en nous une personne aimable. Mais il faut faire attention parce que quand on fait ça, on perd un peu d'authenticité. Puis ça, je pense qu'on l'a mentionné pas mal de fois, c'est un grand risque.
La légende dit qu'aux États-Unis, la meilleure façon de prédire qui sera président, c'est avec qui tu mangerais des hot dogs puis t'irais voir le baseball. C'est un peu ça, finalement.
Clairement.
Donc, merci Alexandre, j'ai noté les 6 principes. Je vais essayer de me mettre dans la peau des gens au Redé là, qui doivent, par exemple, convaincre quelqu'un de l'importance d'embaucher des francophones. Premier principe, la réciprocité. Je dirais, avant même d'établir là, un argumentaire, est-ce que tu as connecté avec les gens? Leur as-tu envoyé même des fois, on a des fameux produits promotionnels, mais comme, hey, on existe. Deuxième principe, l'engagement, la cohérence. Je dirais, ben, vous, monsieur, là, ou vous, madame, êtes-vous le genre de personne à vous impliquer dans la communauté? Êtes-vous le genre de personne à être en avant de la parade? Ah oui, ça, c'est moi. Ben, c'est ça. Agissez dès maintenant. Donc, on fait appel un peu aux qualités. Donc, il faut connaître la personne. Troisième principe, la preuve sociale. Sachez, monsieur, sachez, madame, que vous êtes le dernier ici dans le village à pas être embarqué. Et puis parfois, c'est ça, là, concrètement, c'est-à-dire tout le monde embarque sauf vous. Vous savez, là, je pense à un des membres du Redé qui disait dans notre industrie, par exemple, Walmart est embarqué. Et là, les gens autour disaient, eux sont embarqués, l'autre sont embarqués, il y a juste moi qui n'ai pas embarqué. Donc, racontez vos histoires à succès. Principe numéro 4, l'autorité. L'autorité peut être aussi basée sur, on parlait de la science, mais aussi basée sur... Voici tous les projets qu'on a menés, voici l'ensemble de nos succès, voici qui nous sommes, voici l'historique qu'on a, ça fait combien d'années qu'on existe et qu'on contribue dans la communauté. Point numéro 5, la rareté. Ben là, on le sait, on parle notamment de rareté de main-d'œuvre. Donc moi, je vous regarde de haut et je vous dis, ben, je sais pas si je vais vous rappeler. Et là, comme pour la voiture, je vous dis, ben, ça me dérange pas, mais vous savez que cette voiture-là, quelqu'un d'autre va la prendre par contre. Puis dans certains cas, c'est vrai, mais n'hésitez pas hein, pour faire avancer vos dossiers à faire sentir à l'interlocuteur que votre main-d'œuvre, elle est demandée. Et point numéro 6, l'amitié. Ben, au fond, hein, vous êtes impliqués dans vos communautés, la plupart d'entre vous. Est-ce qu'on participe aux événements sociaux? Est-ce que les gens connectent avec nous? Est-ce qu'on passe du temps à l'aréna de quartier? On connecte avec les gens. Et donc, à long terme, quand on arrive pour une conversation sur les faits, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a déjà une relation. Hein. Puis évidemment, c'est pas uniquement juste l'amitié, hein, mais c'est j'ai connecté déjà avec la personne.
Jean-François, dans le début de l'épisode, t'as souligné aux gens qui nous écoutent à quel point on aimait ça se partager des études, des recherches scientifiques sur différents sujets, puis que c'est la raison pour laquelle on avait envie de partager le contenu comme on le fait aujourd'hui. Donc, dans cet esprit-là, je t'avais demandé de faire des recherches sur les différentes sources pour me revenir avec une étude fascinante ou surprenante qui concerne justement le domaine de la persuasion puis l'art de convaincre. Donc, as-tu trouvé quelque chose?
Ouais, donc il va falloir que tu répondes à ma question.
Oh.
Qu'est-ce qui pousse les gens à agir? OK, en réalité, on pourrait mettre ça de deux façons. C'est-à-dire, vous voulez influencer quelqu'un, vous voulez convaincre, vous voulez persuader. Êtes-vous mieux de faire appel à des émotions positives? L'espoir, la joie, par exemple le bonheur? Ou à des émotions négatives? La peur, l'anxiété? Donc, je te pose la question, un ou l'autre. Faut que tu te prononces. Là.
Faut que je me prononce. C'est un peu difficile parce que ma réponse, ça serait de dire que ça dépend du contexte en général. Normalement, j'aurais dit les émotions positives. Mais les deux dernières années de pandémie, au cours desquelles on a beaucoup misé quand même sur les risques, puis un peu de peur, à raison, pour, je dirais... Ben, ça me fait vraiment hésiter. Mais je veux dire les émotions positives.
Je peux pas te donner le point, Alexandre, mais c'est bien essayé. Demi-point. Puis en réalité, bon, si on débattait un peu, on va essayer de, quand on veut convaincre quelqu'un, de regarder l'ensemble des émotions puis trouver des axes par rapport à ça ou des emprises. Hein. Mais si on avait à choisir entre un et l'autre, puis là, je veux pas vous influencer ou vous persuader, mais on dit ne vraiment pas négliger les émotions négatives. Donc, imaginons, par exemple, qu'on voulait convaincre quelqu'un de prendre une décision. On pourrait lui présenter tous les bénéfices de prendre la décision, mais de lui dire, tu sais que si tu prends pas cette décision-là, voici les risques auxquels tu es exposé. Par exemple, dans le marché du travail, on dirait, si vous ne vous embauchez pas cette personne-là ou vous adaptez pas aux nouvelles réalités, vous comprenez que les concurrents, eux, sont en train de le faire. Donc là, je fais, oh, ça me fait peur, là, par exemple. Et ça a plus d'effet positif que dire, imaginez si vous embauchez des gens et que vous êtes innovateurs. C'est plutôt la crainte. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut faire peur aux gens avec qui vous collaborez, mais au moins, il faut développer un argumentaire autant pour le positif que le négatif. Il y a l'expression anglaise qui dit « bad is stronger than good », mais à tout le moins, perdons-le pas de vue. Donc, 1-0 pour moi.
Ah, ben je vais essayer de me reprendre une prochaine semaine. Jean-François, avant de clore notre discussion d'aujourd'hui là, qui a parlé de l'art et la science de la persuasion, je pense que ce serait nécessaire de prendre un moment pour remercier ceux et celles qui ont contribué à rendre possible ce tout premier épisode destiné aux gens du Rédé. Ça te va?
Ben oui, c'est clair. Bien sûr que ça me va. Ça représente une belle application, d'ailleurs, du principe de réciprocité. Bravo, Alexandre, t'apprends rapidement.
Ben, c'était peut-être inconscient, en fait, mais c'est surtout parce qu'il y a un grand nombre de recherches qui ont démontré que prendre un moment pour partager des remerciements, c'est une façon simple et efficace d'augmenter son propre bonheur, donc le mien, puis celui de ceux qui reçoivent les remerciements. Fait que pourquoi s'en priver?
Bon, mais allons-y. Moi, je débute d'abord en remerciant vous, à la maison, ou vous êtes peut-être au bureau présentement, les membres du Rédé qui écoutaient attentivement, qui prenaient du temps pour vous, pour développer votre expertise, vos compétences. On vous remercie. D'ailleurs, vos commentaires, questions sont toujours les bienvenus.
Super. Ben moi, je voudrais remercier l'équipe du Rédé qui s'est laissée convaincre par cette idée un peu originale de nous laisser s'adresser à vous par l'entremise d'un balado que vous pouvez écouter où et quand vous le souhaiterez.
Bien évidemment, un merci particulier à Chantal Bilodeau, qui est justement derrière cette collaboration.
Et finalement, on va dire un gros merci aux gens de toute l'équipe, en fait, des studios La Shop pour son professionnalisme, ses installations impeccables, puis le café qu'ils nous ont offert à notre arrivée.
Bon, là, c'est une façon, ça a marché, ça nous a convaincus, on va revenir.
Tout à fait.
Vous n'avez pas pris de notes? Mais c'est pas grave. Vous avez accès avec le Rédé, à une fiche outils pratiques. On vous invite à la mettre à votre main. Par exemple, les principes d'Aristote, comment ils s'appliquent dans ma vie au travail? Les grands principes du docteur Cialdini, comment je peux les appliquer, par exemple, dans mes rencontres avec des employeurs partout à travers le Canada? OK? Et donc, vous êtes des gens intelligents et tout ça, puis on s'est dit, on va terminer avec une citation. Donc, j'ai mandaté Alexandre pour dire, quelle est la citation qui te parle le plus sur le thème de la persuasion? T'as-tu trouvé quelque chose?
Ben, en fait, il y en a beaucoup, mais puisqu'on a l'habitude de s'en remettre à des travaux de chercheurs scientifiques pour démontrer nos points, j'ai décidé de faire un petit peu différent pour terminer, puis d'y aller avec une citation d'un auteur de littérature, de science-fiction, en fait, Isaac Asimov, qui a dit, ou à tout le moins qui aurait dit, pour convaincre, la vérité ne peut suffire.